c'est une patiente qui finit, qui est extrêmement anxieuse, qui demande ce qu'elle a, si elle va mourir, dans un français fragmenté, qui est aussi un peu désorienté. Et on a une pression de la famille qui est énorme, qui est omniprésente. Un personnel médical qui est très mal à l'aise, personnel médical et paramédical qui est très mal à l'aise. Et une patiente qui décède dans un contexte d'anxiété majeure. Elle va décéder et peu à peu, le fait qu'elle décède va soulager toute l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'aurais eu envie de demander à cette famille pourquoi elle ne voulait pas parler. Parce que c'est toujours intéressant. C'est vrai que la famille, c'est elle qui connaît mieux le patient, à part la personne elle-même. Mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Et je trouve qu'en expliquant les raisons, souvent, les choses se dénouent des fois un petit peu. Et c'est vrai que ce qui m'embête dans cette situation, c'est que la patiente posait des questions. Parce que quand la patiente ne pose pas des questions, on peut se dire qu'elle n'a pas envie de réponse. Mais là, elle en posait. Donc, ouais, ça me trouble.
Ça fait longtemps que j'ai plus fait de cancer. Et du coup, en infectiologie, on a justement, comme vous le disiez, par le patient avant tout, notamment pour une infection par le VIH par exemple. Et moi, ma première question, c'est mais pourquoi on l'a dit à la famille avant la patiente en fait. Et donc après, je me rappelle hein, ce qu'on avait dit, il faut gérer le stress de la part des gens, donc du coup, le diagnostic, l'annonce du diagnostic, ça peut être quelque chose d'extrêmement stressant, mais depuis, du coup, je suis infectiologue, je vois plus du tout. L'annonce du diagnostic est quelque chose de très 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 spécialisé, je dirais. Il faut vraiment apprendre à le faire, il faut le faire bien. Mais à partir du moment où on a appris à le faire et qu'on le fait bien, pourquoi le dire à la famille d'abord quoi.
Moi je dirais que c'est souvent des cas qu'on voit en gériatrie, c'est quand le patient rentre dans le service de manière précipité, dans un état général très altéré, le premier interlocuteur, ça va être la famille. Et souvent, le dialogue va s'installer avec la famille. Et même si le patient récupère derrière, le dialogue s'est installé avec eux. Et si ce n'est pas rétabli, le dialogue avec le patient, ben c'est, finalement, tout va se passer avec la famille et permuter, si c'est possible, va être compliqué.
Je vais faire une double remarque. Une concernant la réglementation dans notre pays, la déontologie en tout ça, et une autre plutôt sociologique. Pour la réglementation dans notre pays, Paul Ricoeur, le philosophe, le rappelle très bien dans le petit texte qui préface le code de déontologie médicale, l'édition de 1995, c'est lui qui a fait le texte. Un des trois principes fondamentaux, c'est secret médical, et le secret médical, il est opposable à tous ceux qui ne sont pas la personne soignée, et évidemment, il n'est surtout pas opposable à la personne soignée. C'est le contenu qui fait qu'il y a un secret médical, c'est ouvert à la personne qui est soignée, et c'est fermé aux autres, en principe. C'est ça le sens fondamental. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, concernant le contexte. Je serais tenté de poser la question, de me poser la question, pour avoir un peu plus d'informations sur le cas. Quelle est l'origine culturelle et sociologique de cette personne et de son entourage? Parce que l'expérience que j'ai pu faire m'amène à faire une différence entre les franco-français d'un côté, où on conçoit mieux que ce soit l'individu concerné qui ait d'abord l'information, surtout avec les affaires infectiologiques. Et le sida a fait beaucoup progresser dans ce sens-là, évidemment. Mais comme évidemment la France reçoit de plus en plus de personnes qui viennent de l'étranger de cultures différentes, là on peut avoir affaire alors à un monde communautaire où il est d'usage pour eux, en se mettant à leur place, il est normal pour eux que ce soit la communauté qui soit au courant et pas la personne malade elle-même dans l'esprit de la protéger. Donc là ma deuxième remarque se solde, j'ai fini comme ça par une question, c'est quelle est l'origine culturelle de cette dame de 94 ans et de son entourage.
Alors, j'ai fait exprès de pas d'emblée donner la culture de la patiente. Elle est algérienne. Voilà. Parce qu'on va reparler de la culture après et à des nuances culturelles par rapport à ce sujet-là. j'ai pas voulu non plus trop influencer parce que ça se coltine pas à la culture. Mais oui, c'était très une dynamique familiale, grande famille, et effectivement, c'est pas la patiente qui décidait pour elle dans ce contexte-là. Le deuxième cas, c'est un patient de 61 ans, aussi une barrière de langue totale, un cancer du poumon avec une réponse totale en chimiothérapie. Voilà. Quand même un pronostic de rechute assez important. Et ce monsieur, je l'accepte aux urgences pour fièvre et difficulté à respirer. Et la famille ne lui a jamais dit qu'il avait un cancer. Et il explique, par la pensée positive, on pense qu'il va mieux combattre la maladie. Ce patient, il est... Alors, je contacte son oncologue qui me dit, oui, il ne faut surtout pas lui dire, c'est conçu comme ça entre nous. Le patient, très serein. Pose pas de questions. La fille traduit un peu ce qu'elle veut comme elle veut. Et à la fin de la prise en charge, il demande au médecin, à sa fille, de me remercier par rapport à lui. Moi, c'est impossible d'avoir une relation avec le patient. J'aurais jamais su ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. J'ai un intermédiaire. Et finalement, ça va pas si bien se passer que ça parce qu'il va être accepté en réanimation, puis la famille va demander de changer de réanimation le lendemain. Mais dans toute la situation, le patient aura été très calme, très serein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là ?
Comment on peut être sûr que la fille traduit les choses ?
On ne peut absolument pas. Après, il a du mal à respirer, il a de la fièvre. Il se doute que... C'est pour ça qu'il va en rire.
Non, c'est une maison médicale.
Vous n'êtes jamais passé par un interprète ?
Non, parce que c'était un hôpital hyper reculé et c'était aux urgences, donc c'était une prise en charge qui était d'urgence avec une fille qui bloquait absolument tout. Ça veut dire qu'elle épiait mes conversations. Quand j'appelais mes collègues, elle épiait toutes mes conversations, elle me suivait dans les couloirs pour être sûre d'avoir chaque petite information. Donc j'en étais pas à l'interprète près. Et me coachant à chaque fois que je rentrais dans le box pour que je ne fasse rien échapper. Pardon ? Ah oui, mais je pense pas qu'elle m'aurait laissé.
Ouais. Pourquoi cette fille elle est là ? Pourquoi ? À un moment donné, on ne dit pas. En fait, madame, vous allez attendre en salle d'attente. Enfin, nous, aux urgences, on dit les accompagnants n'ont pas le droit, jusqu'à ce qu'on. Ils ont le droit de temps en temps, mais c'est jamais une présence totale, en tout cas pour les soins d'urgence comme ça. Enfin, pas pour les gens qui sont en train de mourir. Mais là.
Ouais, en tant qu'interprète.
C'est pour ça que parfois, quand on ne peut pas passer par. Enfin, quand l'interprète est un peu défaillant, si tu n'avais pas eu cette interprète, si elle n'avait pas été là, toi, tu t'aurais trouvé une autre.
Oui, j'aurais trouvé un interprète, mais là, pour le coup.
Parce qu'elle était plus un obstacle, finalement.
Ouais. Mais en même temps, aussi, son oncologue du même hôpital me dit on ne lui dit pas.
Et ça, le problème, c'est la combine de l'oncologue, là, te met en porte-à-faux.
Ouais.
Moi, ça me choque. Hein. Un oncologue administre une chimio sans que les patients le sachent, c'est... Je pense que c'est...
C'est bien. Il y a quelqu'un qui convulse. Bon, après, qu'est-ce que vous pensez qu'il pense le patient ? Parce que...
Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, il y a la vieille école et la nouvelle école. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir... au siècle dernier.
Assume d'être vieille.
Au siècle dernier, quand j'étais étudiante, on ne disait rien aux patients. J'ai fait mes études à la Boisière Saint-Louis et j'ai fait mon internat en Île-de-France. Et on ne disait rien aux patients. Le médecin était avec tout pouvoir, c'était Dieu. Et avec les grandes visites professorales. Et. Je suis allée à Saint-Brieuc dans le siècle
Suivant.
j'ai eu la chance de faire plus en fonction d'interne dans un service des matons onco pendant un an. Et là, tout a changé. J'ai eu la chance de travailler avec une oncologue qui exerce toujours, très humaine, et qui m'a vraiment, enfin ça m'a touchée, parce qu'elle disait aux patients, et pas à la famille, et ni aux amis. Donc c'était le patient en priorité, la famille pouvait être là, si le patient acceptait que la famille soit là. Et donc, en fait, je vois en fait dans les deux cas que tu nous as présentés, ce qui arrive très souvent, aussi bien dans les EHPAD aussi, c'est cette espèce d'infantilisation du patient, cet hyper protectionnisme. En fait, c'est comme si ça devenait. Comme si le patient de 92 ans, de 61 ans, devenait un petit enfant de 5 ans, pour qui on va prendre la décision, c'est la famille qui va décider de ce qu'il faut faire. Et donc, c'est vrai que je comprends que dans les deux situations, tu sois très mal à l'aise. Et moi, je suis d'accord que on doit dire aux patients. Et en fait, on ne doit pas. Parce que, après, le mot chimio va être prononcé. Un jour ou l'autre, quelqu'un va lâcher le mot sans le faire exprès. Et donc, de toute façon,
parce que ce patient de 61 ans, il était en plutôt bon état général, toute sa tête. Ce patient, il est allé toutes les deux semaines en service de cancérologie. Il a quand même écrit en grand cancérologie. Il a vu des gens chauves autour de lui. Il a vu des perfusions passer. Il doit.
Est-ce qu'il ne savait pas ? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas bien fait est-ce qu'il le savait, mais il avait. Peut-être pas envie de l'entendre. Et donc, le fait qu'il reste serein, voilà. Moi, ça me pose la question, effectivement, parfois de.
Le silence du patient, qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais. Moi, à titre personnel, ça me dérangeait. Ouais, vas-y.
Peut-être qu'il posait des questions, mais comme il n'y avait pas de traduction.
J'avais pas cette impression-là parce qu'il ne posait pas de questions, il a juste intervenu pour remercier. Il n'y avait pas vraiment une démarche, il me souriait, il était calme et présent, tout complètement alerte, mais ayant délégué, enfin l'impression d'avoir délégué, mais en même temps, il n'a pas forcément délégué qu'on lui cache la vérité.
Il a aussi le droit de ne pas savoir.
Oui. Donc moi, dans ma relation avec le patient, ça me dérangeait parce que on conçoit sa relation avec son patient d'une certaine manière, donc je n'avais pas accès à mon patient. C'est des questions qui me travaillent toujours, mais il y a vraiment plusieurs niveaux pour regarder la situation. C'est pour ça que je continue sur ce sujet. Et justement, ces sujets-là, c'est profond pour les soignants, je pense, parce que ça nous amène à définir ou à redéfinir notre rôle, quelle place on a au sein de la relation de soins. Définition de l'éthique qui m'avait aidé à avancer sur cette réflexion, c'est quoi la tension éthique ? Pourquoi tout à coup on est face à une situation et on se sent en tension, on n'est pas en accord ? C'est Pierre Lecoz dit « L'éthique est la réflexion suscitée par une tension entre nos valeurs. » On a tous plusieurs valeurs et tout à coup on doit en choisir. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va dire la vérité ? Ou est-ce qu'on va être bien, ou est-ce qu'on va risquer d'être malfaisant ? Est-ce qu'on va privilégier la loyauté du patient ou est-ce qu'on va privilégier garder la confiance des aidants ? Ça qui va nous mettre en situation de tension interne et qui, si c'est pas bien traité, va rester. Sachant que nos choix après, surtout, enfin, je parle en tant que médecin parce que je connais que ça, nos décisions vont lourdement déteindre sur nos collègues. Ça veut dire qu'à partir du moment où ma médecin chef avait décidé qu'on serait d'accord avec la famille, tout le monde était emprisonné dans ce secret. Toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, personne ne pouvait. Est-ce qu'on pouvait vraiment ou pas ? La question se pose toujours. Finalement, j'ai plus été sur cette patiente-là après, j'ai plus suivi cette patiente-là. Mais est-ce qu'on pouvait transgresser ? La question se pose.
Et du caractère éthique de la transgression.
Ouais. Alors, on a dû vous le répéter plein de fois, mais il y a 4 principes de bioéthique qui ont été proposés par Beauchamp et Childress. C'est comme base de réflexion, c'est l'autonomie. Le respect de l'autonomie des patients, du patient, donc qu'il puisse décider pour lui-même. La bienfaisance, la non-malfaisance et la justice ou l'égalité entre les patients. Et je voulais définir un petit peu le terme d'autonomie. Auto, ça veut dire soi-même. Et nomos, loi. Donc quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui se régit par ses propres lois. Et ça nécessite de l'information et de la compréhension de la part du patient. Dans la relation en éthique, elle se réfléchit surtout dans la relation médecin-malade. Elle se réfléchit pas forcément avec la famille. J'informe mon patient pour le rendre autonome, pour qu'il puisse décider. Les lois, vous avez dû en entendre parler plein de fois, donc on doit une information loyale, claire et appropriée. L'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser. C'est dans le cadre d'un entretien individuel. Et toute personne a le droit d'être informée de son état de santé, des moyens thérapeutiques, des complications de la maladie, des complications des thérapeutiques, toutes les solutions possibles et toutes les conséquences prévisibles en cas de refus. La famille, dans la loi, elle est en second temps si le patient ne peut pas s'exprimer. Si le patient ne s'est pas opposé à ce qu'on informe la famille. Alors, est-ce qu'on peut mentir au patient selon la loi ? J'ai vraiment peur de toi, Nour. Mais en même temps, je suis tellement contente que tu sois là parce que...
Est-ce que c'est une peur, c'est une crainte, une anxiété ?
C'est une angoisse. C'est une face à mes propres limites.
On l'appelle plus Nour, on l'appelle la loi.
Non, parce que Nour a apporté des éléments tellement convaincants pour les précédentes et éclairants pour les précédentes conférences et journées. Et moi, face au texte de loi, j'ai quand même mes limites. Mais je suis vraiment contente que tu sois là. Donc, la version initiale dans le Code de santé publique par rapport à est-ce qu'on peut mentir à un patient, c'est, je vous cite, toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes, il y a une petite défaut d'affichage. Excusez-moi. je minimisais comme ça. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Sauf dans le cas où l'infection dont il est atteint expose à un tiers à un risque de contamination. Cette version a été révisée. Donc maintenant, avant c'était « un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave ». Maintenant c'est « un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection ». Mais les proches doivent en être prévenus. Sauf exception. Est-ce que vous voyez... je ne peux pas les afficher parce qu'on n'a pas réussi à afficher, mais est-ce que vous voyez... un paradoxe entre ces deux, deux textes. Lequel ?
Dans le deuxième cas, c'est la famille, en fait. Ça ne respecte pas ce que nous avons parlé.
Donc, il y a un inversement des prioritaires.
Bien ou pas bien à entendre ou pas, c'est ça qui est difficile. Enfin, parce que finalement, on connaît les patients, mais qui on est pour juger, qu'est-ce qu'il est capable de recevoir comme information en fait.
Et qu'est-ce qu'on met derrière le mot circonspection, hein ? C'est subjectif.
Je pense que c'est voulu par le législateur pour laisser quand même une marge de manœuvre et pouvoir identifier des exceptions en posant un principe, mais avec des exceptions et la possibilité d'ajuster au cas par cas.
Il n'y a pas un
situation. Je sais pas, c'est une bonne question. Il n'y a pas un truc à faire pour savoir si les gens veulent savoir ou pas.
Sans lui poser la question, est-ce que vous voulez savoir?
Souvent, ces questions-là, on se les pose quand c'est déjà arrivé.
Ouais. Alors, Lucie, juste à ce texte, tu as les numéros?
Je te donnerai le PowerPoint. J'ai pas, pour le deuxième, j'ai pas fait mon. Tu veux maintenant ou...
Il me semble que ces textes, ils viennent plutôt de la partie réglementaire.
Ouais.
Et du coup, ça répond à ta question. En fait, l'année dernière, vous avez parlé, pour ceux qui étaient là, de la question de la hiérarchie des normes. En fait, si vous voulez, au niveau de la, du droit, c'est organisé de manière comme une pyramide. Et en fait, les règles, elles doivent toujours respecter les règles qui sont supérieures. Et dans le code de la santé publique, il y a un texte qui est assez clair, qui est dans la partie législative, donc c'est la loi, qui dit bien que c'est l'article que tu as cité tout à l'heure, que bah, le médecin doit au patient une information claire, loyale, appropriée, etc.
Ça, c'est le principe général.
Ça, c'est le principe général. Et là, ces textes-là, il me semble bien qu'ils sont issus de la partie réglementaire. Donc c'est en dessous de la loi, et le règlement ne peut pas contredire la loi. Donc en fait, si la base dit qu'il faut informer le patient, le principe pour le médecin, c'est que tu dois informer le patient.
Et c'est bien R.
Et ça, même on est en débat en se disant que ce texte-là est contradictoire par rapport au principe de base et qui ne devrait plus être appliqué en fait, par les médecins. Parce que c'est une scorie du passé de la conception paternaliste médicale. Il disait Colette, en fait, en tout temps,
il y
avait du calme, c'est une scorie qui s'est passée, qui a remis les droits aux patients. Et depuis, le patient a des droits. En fait, la base, ce texte-là, où effectivement, on sous-entend qu'on peut mentir au patient, mais il y a quand même la loi qui dit que non. Donc, moi, ma réponse juridique, ça serait non, tu ne peux pas mentir au patient. Tu peux lui demander s'il veut être informé, y compris si c'est grave, et le patient a le droit de ne pas savoir. Donc, effectivement, il peut refuser. Tu peux demander au patient s'il a envie que sa famille soit informée, parce que le patient, il peut vouloir impliquer sa famille, et ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait que ce soit la famille qui reçoit l'information en premier lieu, pour moi, c'est une pratique même qui est dangereuse pour le médecin, parce que pour le coup, c'est autant plus fini au niveau juridique, on peut poursuivre sur ce point-là.
Parce que nous, en tant que médecin, on va voir le code de la santé publique. Et ben, c'est là qu'on va trouver nos informations.
Coup, dans le code de déontologie, là, ça contredit.
Je voulais venir à ça, cette autre strate dans la construction.
Mais qui est en dessous.
Voilà, c'est ça qui est en dessous. Elle est en même temps plus proche du terrain. C'est lui vers le bas. Donc, ce code de déontologie médicale, je voulais rappeler, et qui va exactement dans ce que dit Lucie, c'est qu'il a lui-même une histoire. On sait tous que c'est une production de l'Ordre national des médecins. Cet ordre s'est constitué à la période de Vichy, donc dans la guerre, et oui, il est dans un contexte qui est important de rappeler. Et il y a eu, et je parle sous le contrôle des juristes, quatre versions successives et officielles du code de déontologie médicale. La première version historiquement datant, si j'ai bonne mémoire, de 1947, à la fin de la guerre, et la dernière version toujours dispo, même si il y a des nuances qui viennent, datant de 1995, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celle qui avait été commentée par Louis René, le président de l'époque, et qui est préfacée par Paul Ricoeur. Donc voilà, et Colette Bouvre. Et donc là, sur 50 ans à peu près, nous avons quatre versions successives du code. Et concernant un point particulier que je voudrais... qui est dans la prolongation du principe rappelé de l'autonomie. Une expression de l'autonomie en matière d'information, c'est consentir. Ce consentement, il a besoin pour être libre d'être éclairé. Et Lucie, ça veut dire lumière, elle est en train de faire ça pour nous. Ce consentement qui a besoin d'être éclairé, eh bien, d'une part, première version de 1947, et même la deuxième et troisième du code de déontologie, il n'existait quasiment pas ce consentement. Il commence à apparaître de manière assez claire et explicite. Il faut demander le consentement, ça doit passer par là. Dans la quatrième et dernière version, mais on a un virage quasiment à 180 degrés entre la première et la dernière version disponible du code de déontologie médicale. Je suis schématique, je m'en excuse, mais la première version, elle dit, en règle, il vaut mieux cacher les choses au préalable. Et donc, son consentement, puisqu'on lui cache, il n'a aucune raison d'être. Il n'existe pas. C'est dans le cadre paternaliste. Quand on dit à un enfant, ne touche pas à ça, on ne lui demande pas son consentement, hein, c'est une voilà. Et le quatrième, la quatrième version, elle, là, le consentement apparaît, et donc ça veut dire que l'information doit aller avec, et là, de manière conjointe, l'article indique que la règle sera plutôt maintenant 180 degrés, d'informer la personne, sauf quand elle dit qu'elle ne le veut pas ou elle fait comprendre que non. Voilà.
Elle fait comprendre de quelle manière? Parce qu'après, ça reste subjectif.
On va en reparler. Je pense que je vais manger les 10 minutes de questions.
C'est ça,
par...
c'est ça.
Voilà. Non, mais c'est ce que je veux parce que ça. C'est... Alors, la vérité, il y a plein de définitions, plein de niveaux de vérité. Il y a la vérité objective, dire ce qui est, mettre les bons mots sur ce qui est, dire ce qui est. Et il y a des notions comme la vérité morale ou la véracité. Ou ce que nous disons et ce que nous croyons être vrai. Et qu'est-ce qu'il veut savoir le patient? Est-ce qu'il veut savoir la taille exacte de sa tumeur ou est-ce qu'il veut qu'on sache savoir ce qu'on pense de son pronostic? Donc ça c'était Foucault qui dans Le Regard Médical qui disait aujourd'hui on c'est pas que lui mais on produit une multitude de vérités. Sur le patient, une multitude de savoir sur le patient, on connaît la taille de ses organes exactement, on connaît les protéines qui circulent dans son corps, on connaît parfois son génotype. Et donc, on a, souvent quand on arrive en consultation, on a une connaissance massive de l'intérieur du patient, et ça renforce la symétrie dans la relation de soins, où le patient, finalement, quelquefois, on sait plus de choses sur lui que lui-même. Ne le sait dans certains aspects. Et Foucault dit le savoir invente le secret. C'est un peu la même chose que c'est un peu la même chose que je vais dire, mais la vérité diagnostique par rapport à la vérité d'issue. Le patient veut savoir son diagnostic, mais il veut surtout savoir l'issue. Et cette vérité d'issue, elle a une portée existentielle. C'est ce que ma vie va se terminer, combien de temps j'ai, qu'est-ce que je devrais faire. Et il y a deux oncologues qui ont écrit un livre qui s'appelle « Changer la mort ». Et ils font remarquer que c'est des questions qu'on ne pose, questions extrêmement profondes, qu'on ne se pose pas pendant la vie, de manière générale, et que c'est le moment où on est le plus vulnérable, qu'on doit faire face à ces questions-là. Et ils interrogent comment on peut aborder ces questions alors que on a un moment si critique, alors qu'on n'a jamais évoqué ce sujet de front le reste de nos vies. La vérité statistique, alors c'est des données collectives qui sont pas vraiment utiles pour les individus, et là je me base sur un livre que j'aime énormément de Paul Kalanithi qui s'appelle « Quand le souffle rejoint le ciel ». Ah, le Joël, d'accord, super. Et c'est le témoignage d'un neurochirurgien qui, à l'apogée de sa carrière, va être diagnostiqué d'un cancer du poumon métastatique avec un pronostic très sombre. Et il va raconter son cheminement par rapport en tant que médecin et en tant que patient. Il va décéder, il me semble, 5 ans plus tard. Il dit quelque chose qui est important, c'est ma relation aux statistiques a changé dès que j'en suis devenue une. C'est-à-dire que lui, neurochirurgien très très bon, enfin connaissant les courbes statistiques, connaissant sachant interpréter tous ces articles, il va voir son oncologue et il demande quelle chance j'ai de m'en sortir. Et quelles sont les statistiques? Et son oncologue tape du poing sur la table et lui dit « On ne discutera pas de ça. » Il dit « Tant pis, moi j'irai à la maison et je lirai moi-même les statistiques. » Et quand il se confronte à toutes les courbes, il dit « J'ai 10% de chance de survivre à 10 ans ou alors j'ai peut-être 50% de chance de survivre à 3 ans, et il s'aperçoit que ça ne lui sert à rien, finalement. Lui dit à son oncologue, si j'ai 10 ans, je veux continuer à opérer, si j'ai 2 ans, je veux écrire. Mais les statistiques n'ont plus rien à... Enfin, sa relation statistique change. Et un exemple qui était donné par une psychologue dont je n'ai pas cité le nom parce que j'ai oublié de le mettre, elle raconte une épouse à qui on a dit que son mari n'allait pas survivre à Noël. Donc elle dit, lui donne 3 mois. Et ce patient, il survit 5 ans. Et la femme, son épouse, dit, on aura vécu un deuil pendant 5 ans. On a été emprisonné dans le deuil.
Le médecin ne prédit pas tout seul, mais on doit prévoir ensemble.
Moi, j'ai un patient que j'ai vu en visite à domicile, et son oncologue lui a dit qu'il avait 2 ans à vivre. Du coup, il a pris, juin 2018, il avait fait un grand panneau dans son salon, juin 2018, juin 2020, et il s'est mis une date d'expiration à la vue de tous. Et il la regarde toute la journée. C'est un monsieur de 60 ans, donc...
C'est la réalité qui est enferme. Le confrère de Jean 8, c'est la réalité qui libère.
Et Paul Kalanithi, dont on a parlé, il dit quelque chose sur son oncologue, qui, elle l'encourage à trouver ce qui est important pour lui, à se réinventer. Elle s'appelle Emma. Emma ne m'avait pas rendu mon ancienne identité. Elle avait protégé ma capacité à m'en forger une nouvelle.
Yeah. Pardon.
Mm-hmm.
À propos d'Emma. Et de ses conversations avec Paul, j'ai en mémoire une autre chose qui m'avait beaucoup touchée en lisant le livre. C'est quand Emma, l'oncologue, annonce, elle est obligée de le faire au téléphone parce qu'il habite très loin, elle lui annonce que le traitement de la rechute ne marche plus. Donc là, carrément, il va mourir de son cancer. Et là, il y a un échange que j'ai trouvé très émouvant, où il se demande bien sûr comment les choses vont se passer, et Emma, le médecin, lui dit, écoutez, vous êtes médecin, vous savez les choses, vous avez connaissance en plus, vous avez regardé, puisque vous savez, vous faites les choix et vous gérez. Et Emma continue en disant, toutefois, je me permets de vous le dire, c'est à vous de choisir. Et si vous pensez que dans ces décisions difficiles, je puisse vous être d'une utilité, eh bien, je suis disponible et je le resterai.
Ouais. Elle lui dit, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais elle lui dit, si tu veux que je sois le docteur, je ferai le docteur. Voilà. Et il la rappelle, enfin, il me semble qu'à la fin, elle lui dit, je voudrais que tu sois le docteur, là.
Elle lui a laissé cette...
Une dernière, j'aime bien Paul Kalanithi, il s'interroge sur le rôle du professionnel de santé, et il dit une phrase que je trouve très très percutante. Il dit, le devoir du médecin n'est pas de contrer la mort ou rendre aux patients leur ancienne vie, mais d'accueillir à bras ouverts le patient et la famille dont les vies se sont désintégrées, et de travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils puissent se redresser, faire face et se réapproprier leur propre existence. Paul Kalanithi,
K-A-L-A-N-I-T-H-I.
Ouais.
Et le titre
Quand le souffle rejoint le ciel. Alors, secret et mensonge, il y a un lien étroit entre le secret et le mensonge. Le secret, c'est de ne pas dire quelque chose, mais le mensonge, c'est faire croire autre chose que ce qui est. Pour citer Sylvie Fazang, c'est une anthropologue qui travaille beaucoup sur la relation de soins, elle dit « le dupé est trompé sur l'opinion du menteur ». Ça veut dire que si je ne dis rien, c'est une chose, mais si je ne dis rien et que la personne croit autre chose, ben je suis en train de mentir. Euh... Ce qu'elle, enfin, plusieurs anthropologues ont remarqué, c'est qu'il y a une observation en miroir entre le patient et le médecin. Le patient, alors nous en tant que soignants, on analyse énormément la personne en face de nous. On analyse leur silence, on analyse leur regard, on analyse leurs paroles, on y réagit. Mais le patient, il nous scrute à la recherche d'indices. Chaque regard, chaque hésitation, chaque mot médical va avoir une portée que on ne peut pas anticiper. Par exemple, quand on dit le bilan est négatif.
C'est positif en médecine.
Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Sylvie Faisang fait remarquer qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir qui fait que déjà les médecins, les patients, les médecins, effectivement, vont adapter leurs paroles et parfois euphémiser, parfois mentir. Mais le patient aussi va utiliser la vérité et le mensonge pour regagner du pouvoir dans la relation. Alors, l'information comme un traitement, c'est quelque chose de pareil que Sylvie Faisang a dit, que j'ai trouvé très intéressant. Elle fait remarquer qu'en tant que médecin, on utilise l'information comme un traitement, qu'on répartit en petites doses, adaptées aux patients, pour avoir l'effet qu'on veut. Ça veut dire, si on donne trop, le patient va être sidéré ou pourrait peut-être ne plus être d'accord avec notre prise en charge. Si on n'en donne pas assez, il ne va peut-être pas adhérer à au schéma thérapeutique qu'on lui propose. Donc il y a un statut très ambigu de l'information.
Je ferai une remarque cet après-midi quand je prends l'intervention. Je ne veux pas manger.
Donc,
je crois qu'il y a une nuance à faire entre traitement et soin par rapport à l'information. Mais on verra cet après-midi.
C'est pour ça qu'on ne va peut-être pas donner tous les effets secondaires d'un médicament au moment où on délivre le paracétamol. Juste de rester à 4 comprimés par jour. Donc c'est une source inépuisable d'enjeux éthiques.
Je voulais aussi dire quelque chose par rapport à l'information. Quand le patient la refuse, le patient était dans le déni, il refuse parce que même un petit bout d'information peut être intolérable pour le patient.
Même un petit bout peut être.
Un petit bout d'information
peut être
intolérable pour le patient. Et donc il refuse, rejette, et pousse le patient, pousse le médecin, veut faire mentir le patient. Est-ce qu'on peut mentir au patient ? Et est-ce que le patient va nous faire mentir ? Parce que, non docteur, non, ça ne peut pas être ça.
Oui, alors dans le livre Changer la mort, ils font remarquer à les deux oncologues qui parlent, ils ont des noms que je n'arrive pas à prononcer. Pardon ?
Je parle.
Oui.
Donc, voilà. Et
Il semble qu'il y en a un des deux qui est oncologue.
Il était journaliste et il est mort lui-même d'un cancer après avoir écrit sur lui.
Il était cancérologue.
Ouais, et l'autre était cancérologue. Je pense bien qu'il a été un jour et trois heures au ministre de la Santé.
Léo,
ouais, c'est ça. Léo. Ils ont co-écrit, mais c'était à l'époque de 1983, la promotion de l'euthanasie par les trois prix Nobel à Nice.
Alors, il faut remarquer qu'un patient qui demande une information, il peut y avoir quelque chose derrière cette demande d'ambigu ou d'ambivalent. C'est-à-dire, je veux savoir ce que j'ai, à condition que ce soit une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que j'ai, docteur ? Il veut la réponse seulement si c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je vais mourir, docteur ? Répondez à condition que ce soit non. J'avance juste sur la dimension culturelle, parce que les demandes de dissimuler l'information, c'est souvent des familles qui ne sont pas occidentales. Donc l'autonomie, c'est quand même quelque chose qui a été énormément prôné dans ce coin du monde depuis quelques décennies. Mais ce n'est pas du tout un modèle qui est courant partout. En Asie, on a les modèles d'autonomie familiale. C'était notamment... j'ai pas le pays en particulier là, mais où la famille prévaut sur le patient et le médecin obéit à la famille. Et Ça émane de valeurs profondément inscrites dans la culture. Ça peut être d'harmonie sociale, d'honneur des honneurs, sachant que, par exemple, dans certaines cultures, un cancer, c'est honteux. Donc, on va protéger le patient de ce diagnostic qui est honteux et on va aussi protéger de l'extérieur. Donc, on ne va pas dire à l'extérieur qu'il y a un cancer dans la famille parce que c'est un déshonneur. Donc, c'est, quand même, c'est rentrer, quand on vient d'une certaine culture, rentrer dans l'autre culture et voir tout ce qui est en jeu, c'est pas facile. On peut faire des dégâts sans s'en apercevoir. Au Bénin, ça c'était une étude qui était réalisée au Bénin, mais il est courant que chaque patient ait un garde-malade. Donc c'est quelqu'un de la famille qui exécute qui fait les soins, qui va acheter les médicaments, qui finance, et c'est lui qui va être participer aux décisions médicales et aux discussions. Donc là aussi, la responsabilité par rapport au patient est déplacée. Donc quand il est dans un contexte d'immigration, l'hospitalisation une hospitalisation en Occident, il y a un grand terrain pour un choc des cultures. Mais au sein de ces différences culturelles, il y a aussi un paradoxe. Il y a une étude qui a été faite auprès d'infirmiers à Hong Kong sur le fait de cacher le diagnostic. C'est des infirmiers en oncologie, il me semble, sur le fait de cacher un diagnostic aux patients, et c'était à l'unanimité mal vécu. Donc même des gens qui sont profondément inscrits dans cette culture-là ne vivent pas forcément bien le fait que le patient n'ait pas accès à son information. Et il y a eu un sondage qui a été fait national, qui a été fait par des grands journaux au Japon. Et il y avait deux questions. C'était si votre proche est atteint d'un cancer, est-ce que vous voulez qu'on lui dise ? Et la grande majorité, je crois que c'était au-delà de 90%, a dit non. Et la deuxième question, c'était si vous voulez que vous ayez, si vous avez un cancer, est-ce que vous voudrez qu'on vous le dise ? Et l'énorme majorité a dit oui. Donc, il y a la dimension collective, mais il y a aussi la dimension individuelle. Même au sein d'une même culture, une personne qui a des certaines habitudes culturelles, au cours de son immigration, elle va changer d'attachement, elle va avoir une balance entre l'attachement de la culture d'accueil et la culture d'origine. Et même au sein de la même personne, les convictions peuvent changer. Même au sein de la même maladie, la personne peut évoluer dans ce qu'elle veut pour elle. Donc, il y a toutes les nuances qui sont possibles, et tant bien même qu'on aurait cerné la nuance, elle peut changer entre temps. Je vous présente juste rapidement l'étude que j'ai réalisée l'année dernière pour mon M2, et c'était donc une étude qualitative auprès de médecins oncologues et hématologues, où je leur ai demandé, c'était 5 hématologues, 4 oncologues, s'ils avaient été confrontés à cette situation et comment ils l'avaient gérée et pourquoi. Alors, comme il n'y avait pas en français de bibliographie sur le sujet, j'avais des hypothèses très très modestes. C'était est-ce que la situation existe pour vous, puisqu'on m'avait dit qu'elle n'existait pas, et est-ce que ça pose un dilemme moral. Hop. Donc 9 entretiens, semi-dirigés, analysés. Tous les participants avaient vécu cette situation. C'était des participants, donc il y en avait qui avaient 4 ans d'expérience et d'autres qui avaient plus de 30 ans d'expérience. C'était souvent les enfants qui demandaient pour leurs parents et parfois le conjoint. Et tous les intervenants, ils ont dit, quand je commençais à poser la question, ma question c'est est-ce qu'une famille vous a déjà demandé de cacher une information pronostique ou diagnostique au patient ? Et là, ils m'ont tous arrêté en disant « ça n'a rien à voir, une information diagnostique, une information pronostique ». Donc, il y a deux volets d'interprétation, enfin d'analyse. Alors, comment ils interprétaient la demande ? C'était la volonté de protéger le patient en général, la volonté de la famille de protéger le patient. Ils évoquaient des mécanismes d'autoprotection de la famille. Et la réponse de tous les médecins, c'était un accompagnement renforcé de la famille et du patient. Sauf, alors on verra la nuance, et généralement la demande était refusée. Donc pour l'information diagnostique, on y des réponses, tous non. Un patient, on lui donne son diagnostic, s'il le demande. Pour l'information pronostique, c'était beaucoup plus nuancé. Des raisons pour ça, il y avait des raisons par rapport à ça. Quelquefois, le médecin décidait lui-même de ne pas l'annoncer aux patients que le pronostic était sombre parce que pour diverses raisons de jugement, donc quelquefois la famille n'avait pas besoin de demander. Euh, Alors, pourquoi ne pas cacher un diagnostic ou un pronostic? Genre, les raisons données étaient de ne pas infantiliser le patient et de maintenir la relation de confiance. C'était vraiment au centre de ce qui était dit. Une demande de la famille avait été pour une hématologue de cacher le mot leucémie dans leucémie lymphoïde chronique. Donc c'est une maladie chronique qui justifie pour la patiente simplement un suivi annuel. La fille a dit au médecin, ne prononcez pas le mot leucémie devant ma mère. Alors elle a accepté. Et rétrospectivement, ce qu'elle se disait, c'est j'ai peur que quelqu'un prononce le mot devant moi, devant la patiente, et que je puisse pas me rattraper et que ça la choque. Et elle dit, finalement, j'aurais juste pu amener les termes plus progressivement, en disant leucémie, mais ça n'a rien à voir avec leucémie aiguë. Et après, elle s'est dit, une réflexion, elle s'est dit, mais maintenant, tout le poids repose sur la fille. Tout le poids de la décision et de l'information, je l'ai laissé sur les épaules de la fille. Alors, le patient silencieux, ça engendrait souvent que le patient ne soit pas informé. On reverra ça après. Moins le patient ne pose de questions, plus le médecin discute avec la famille. Et les questions de respecter le silence du patient et de ne pas le transgresser, les médecins se demandaient quelquefois si c'était par pudeur, est-ce que c'était un geste de pudeur par rapport au patient qui ne veut pas en parler, ou si ça maintient un silence anxiogène, si on est finalement dans un silence consenti des deux côtés, ou si on n'est pas en train de renforcer un non-dit ou même d'entraîner un mensonge. Mais ce qui m'intéresse, ce que faisaient remarquer les médecins, plusieurs, c'était que eux-mêmes, ça faisait intervenir leur sensibilité personnelle et leur conviction, et que eux-mêmes se projetaient sur le patient dans leurs décisions. Et ça faisait intervenir des mécanismes vraiment et des convictions vraiment intimes par rapport à eux, par rapport à la vérité, à la mort.
Est-ce que tu peux nous définir pour moi, pour une bonne compréhension en termes de sémantique, quelle est la distinction entre pronostic et diagnostic?
J'aurais pu le dire. Le diagnostic, c'est simplement quelle maladie on a et à quel stade. Le pronostic, c'est comment elle va évoluer cette maladie. Vers la guérison, vers un état stable ou vers le décès à court, à moyen terme. Donc c'est facile, c'était plus facile de donner le diagnostic que l'échéance. Ce à quoi je veux en venir, parce que je trouve que ça a été vraiment intéressant, c'était l'effort de nivellement d'information qui a été fait par les différents praticiens face à cette demande. Ils s'y prenaient tous, quand ils n'étaient pas d'accord avec une demande, ils s'y prenaient de manière assez différente, mais l'effort était de rétablir le niveau d'information des deux côtés, des patients et de la famille. Il y en avait qui renforçaient d'abord la famille pour les convaincre que c'était important d'informer le patient, en disant par expérience, le patient vit mieux quand il est informé, il sent qu'on lui cache quelque chose. En commençant par le patient, en renforçant leur lien avec le patient, en passant plus de temps avec lui pour voir ce qu'il avait compris et ce qu'il voulait comprendre. Ou les deux en même temps, recevoir les deux familles en même temps, les deux membres, la famille et le patient en même temps, pour qu'ils aient les mêmes... le même niveau d'information au même moment. Une réaction que j'ai trouvée intéressante d'un oncologue qui a 35 ans de carrière, c'était une épouse lui avait demandé de ne pas dire au patient, à son mari, qu'il avait un cancer. Il avait été catégorique, il dit non, c'est pas vous qui décidez. Mais il dit par contre, quand je lui aurais dit, je vous dirai. Et ça permet de rétablir des vérités dont on ne peut pas parler à l'intérieur de la famille. On ne peut pas être confronté à cette discussion-là. Ce médecin avait bien compris ça. Et il a des entretiens seuls avec son patient. Il dit, quand il sera au courant, vous serez au courant. Chacun saura que l'autre est au courant. et on pourra continuer. Une des choses qui est ressortie, c'est que souvent quand il y a une demande de ce type-là, les relations sont brisées dans la famille. Brisées ou abîmées, ça veut dire qu'il y a l'omniprésence de la mort, du fait de mourir, le poids de ce sujet, et on n'arrive pas à en parler. Et du coup, tout le monde est bloqué dans cette situation-là, où le malade est souvent isolé, il sent qu'on ne lui dit pas tout, la famille est en grande souffrance parce qu'elle veut protéger son proche, et en fait, la communication ne se fait plus à un moment qui est critique, où on a au contraire beaucoup de choses à se dire et beaucoup de soutien qui est possible. Et le fait que ce nivellement, ça permettait de rétablir la communication intrafamiliale. Et finalement, en faisant ça, le soignant guérit, peut amener à guérir une relation familiale. Et en situation palliative, c'est quand même, la famille, c'est quand même tout ce qui reste au patient en général, ou la famille ou les proches.
Le médecin de 35 ans d'expérience, ouais, quand il dit à cette dame, quand j'aurai informé, je vous le dirai, ça me paraît tout à fait très bien illustré, ce souci de préserver le relationnel entre toutes les parties prenantes et de résorber les décalages qui s'instaurent toujours en termes d'information entre les proches, les soignants même et le malade. C'est une très belle façon de, à la fois d'illustrer et de coordonner la chose. Je le résumerai en disant que le soin, c'est continu. C'est l'accent sur le caractère continu du soin.
Et il faut tenir compte qu'il y avait des familles qui, une fois que tout le monde savait, pouvaient en discuter entre eux. Et d'autres familles qui... une des oncologues m'a dit, a nivelé l'information entre les deux parties. Après, elle leur a dit, alors vous en avez reparlé ? Et elle a dit non. Et la patiente a dit non. Mais tout le monde sait où en est l'autre et ils peuvent continuer dans leur relation. Et il n'y a plus le non-dit qui se met entre les personnes. Je ne vais pas être longue maintenant parce que j'ai les citations et les verbatim, mais ce n'est pas très, très important. Les circonstances pouvant faire accepter la demande de la famille, c'était souvent le grand âge, selon les médecins, parce que plus le médecin était avancé dans sa carrière, plus il disait on peut pas mentir à une personne âgée, et plus le médecin était jeune, il disait on peut pas mentir à un jeune. Juste une remarque sur laquelle on peut projeter sur l'autre. Les troubles cognitifs, la barrière de langue, plus le patient était en retrait, plus le patient avait délégué la prise en charge à la famille et à la famille était passif, moins il était informé. Les troubles psychiatriques, mais ça ils ne sont pas trop mouillés, ils ont juste dit qu'il fallait faire intervenir un psychiatre, et le silence du patient. Alors voilà, ça c'est une situation, si le patient ne me pose pas de questions, vu son espérance de vie, je ne l'embête pas à lui parler de soins palliatifs. Si la famille... je discute avec la famille pour essayer de savoir ce qu'il pense être le mieux pour le patient. Et, ça ne sert à rien d'aller l'informer si on sent qu'il n'a pas envie de savoir. Par contre, face à une demande d'impatience, ils étaient catégoriques. Ils pensent qu'il faut le dire, il faut informer. Qui ne veut pas nous... je ne vais pas vous lire tous les verbatim parce que. Alors, ce n'est pas parce qu'un patient était silencieux qu'il n'était systématiquement pas informé, mais la décision dépendait lourdement de la sensibilité du médecin. Et il y a un des oncologues qui dit, mais c'est la part artistique du métier. Il y a une énorme variété d'interprétations face au silence, ce qui reflète la relation soignant-soigné de manière générale. Le vécu des médecins, est-ce qu'ils le vivaient comme un dilemme moral ? Alors, il y en a un qui me disait, si je faisais ça, j'aurais un conflit en moi. Je me dirais, non, c'est pas possible. Oui, moralement, ça me dérange. Et une autre qui me disait, si la famille me dit non, il ne faut pas lui dire parce que nous, on ne veut pas. Là, oui. Moi, je trouve que ma loyauté est malmenée. Alors, est-ce qu'il y avait un conflit, un dilemme moral chez les médecins? Non. Tous disaient qu'en s'affermissant dans leur position de médecin, ils arrivaient à plus être influencés par la famille et qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce dilemme. Ils arrivaient à trancher et pas être sous l'emprise d'une décision qui aurait été, avec laquelle ils sont moralement pas d'accord. Par contre, ils disaient que c'était les débuts de carrière qui étaient difficiles, où on veut aller dans le sens de la famille, on veut aider, et finalement on peut se retrouver à être embarqué dans une situation qui va nous mettre très mal, et pas forcément que nous-mêmes. Ils disaient tous que c'était passé, hein. Que c'était fini. La crainte du conflit ne motivait pas les décisions. Je pensais trouver une grande crainte du conflit avec les aidants, et en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ce qui est ressorti. Et il y a un des hématologues qui me dit, bon, j'ai un gros verbatim, mais je vais le réduire, qui dit, mais en fait, l'enjeu éthique, c'est tout le temps en médecine. C'est à chaque fois c'est dès qu'on frappe à la porte du patient, dès qu'on dit bonjour au patient, on est déjà dans des enjeux psychologiques, moraux et éthiques. Dès qu'on toque à la porte, ouais. Donc la conclusion de l'étude, c'était que c'était bien une situation récurrente, que le dilemme moral existe, mais seulement si le médecin se sent contraint. C'est lié, attribué à être moins expérimenté. Questionnement sur l'individu, quelle est la place de l'individu dans tout ça? Est-ce que on enlève son statut d'individu au patient pour la décaler en lui enlevant son autonomie ou en limitant son autonomie pour donner plus de marge de manœuvre à la famille? La question se pose particulièrement pour les personnes âgées qui ne sont pas forcément toutes démentes, mais qu'on peut traiter parfois comme telles. Et le rôle médiateur du soignant, l'impact qu'on peut avoir au sein d'une famille. Une question, l'information progressive et la temporalité. Alors, bien sûr, on est souvent obligé d'annoncer, enfin, on se doit d'annoncer progressivement les choses aux patients, parfois réexpliquer plusieurs fois, mais est-ce qu'on a le temps qu'on pense avoir? Sachant que la maladie est imprévisible, est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on devrait, même si le patient risque de décéder avant qu'on ait pu le préparer, est-ce que comment on gère la fin de vie et le temps du patient? Voilà. Tout ce qui tourne autour du silence du patient que j'aimerais approfondir, mais c'est un travail à faire. Voilà.
Merci.